enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler du code da Vinci? Ça vous dit quelque chose? Oui? Alors, je me suis préparé pour cela, et puis en regardant le journal de La Presse du mercredi 17 mai, il y a exactement la même pensée que ce que j'avais. Le titre, c'est « Tout ça pour ça ». Quand j'ai commencé à lire le Code da Vinci, je me suis dit « Bon, on va se préparer, il va y avoir une lutte là, il va y avoir un combat, on va armer les couteaux, on va prendre la bonne stratégie. » J'avais l'impression d'être Rocky. Vous connaissez Rocky? Ouais. C'est dit, bon, il va y avoir un combat, alors il y a tout le temps de préparation. Il faut se dire, on va faire un gros combat. Et puis, je me suis dit, je suis Rocky, là, il faut que je me prépare parce que je vais combattre le Code da Vinci. Et ce matin, on avait annoncé le grand spectacle, le pasteur vs le Code da Vinci. Et c'est un combat pugilat. On se dit, bon, il va y avoir des coups parce que... Et puis, quand je me suis trouvé sur le ring, et puis que le Code da Vinci est venu, il n'était pas plus haut que ça. Il n'avait pas l'air très inquiétant et franchement, ça m'a déçu. Je m'étais préparé à combattre, c'est-à-dire, on va faire un vrai combat, et on se retrouve avec une petite affaire. On se dit, mais c'est ça le combat? C'est ça l'affaire? Il n'y a pas grand-chose. Et vous voyez, c'est un peu ce que disent les journalistes aussi. Tout ça, pour ça. Parce que, en lisant le Code da Vinci, on réalise qu'on fait toute une tempête dans un verre d'eau, et qu'on fait beaucoup de choses pour pas grand-chose. La bande-annonce du film, si vous en souvenez, on la repassera ce soir. On aura quelques reportages aussi à l'écran ce soir. La bande-annonce disait que sa puissance, vous avez ça dans le bulletin, vous avez le texte, sa puissance est telle que des hommes sont morts pour le protéger. Ouh. Certains sont même prêts à tuer pour le découvrir. C'est un message qui a été caché pendant des siècles juste sous vos yeux. Est-ce que vous le voyez le message? Dans les yeux, dans le sourire énigmatique de Mona Lisa. Et la bande-annonce disait, oubliez ce que vous avez lu. Et il fait référence à la Bible. Oubliez ce que vous croyez. L'aventure ne fait que commencer. Et l'annonce, c'était la pré-annonce, l'annonce qui est faite dès le départ, vous avez certainement dû entendre ces textes, c'est l'annonce qui est passée souvent à la télé ces dernières semaines, disait en fait, oubliez tout. Oubliez ce que vous avez lu. Oubliez ce que vous croyez. Parce que le Code da Vinci va venir tout bouleverser ce que vous avez pu lire ou ce que vous avez pu croire jusqu'à aujourd'hui. La bande-annonce disait aussi, nous sommes au cœur d'une guerre sans fin, pour protéger un secret redoutable qui pourrait, s'il était révélé, anéantir jusqu'au fondement même de l'humanité. Découvrez le secret le mieux gardé de l'histoire de l'humanité. Est-ce que vous connaissez ce secret? Ben, évidemment que non, parce que sinon ce ne serait pas un secret. C'est le secret le mieux gardé de l'humanité. Et là, on nous fait cette annonce, s'il était révélé, il pourrait anéantir jusqu'au fondement même de l'humanité. Il y a de quoi avoir la chair de poule. Ça, c'est un secret qui peut tout bouleverser et même détruire, anéantir le fondement même de l'humanité. Et ce qui est très paradoxal, c'est qu'à la fin de la bande-annonce, il y a ces mots qui s'affichent, « Cherchez la vérité ». Et la question que je me pose, c'est quelle vérité il faut chercher? Cherchez la vérité. Vous voyez, c'est un petit peu comme si on veut vous conduire dans une direction en disant « cherchez la vérité », mais on vous montre la direction opposée à la vérité. En disant « cherchez la vérité », mais on nous envoie dans une impasse. Le Code da Vinci, c'est avant tout un roman. c'est avant tout une histoire, c'est avant tout un polar, un thriller. C'est avant tout une histoire policière, il y a un mort, il y a tout. Et c'est une chasse au trésor. C'est une aventure où qui est là pour, étape par étape, amener à découvrir ce secret. Alors je suis désolé pour ceux qui n'ont pas lu le livre ou ceux qui n'ont pas vu le film, mais je vais détruire le pitch, le punch, le suspense, et je vais vous révéler le secret de but en blanc comme ça, et puis bon, bah tant pis. C'est une histoire de secret et de conspiration. Secret et conspiration. D'ailleurs, si vous avez remarqué, la plupart des bons livres, la plupart des énigmes, la plupart des films tournent autour du secret et de la conspiration, du complot. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui se tournent autour du complot, de la conspiration. Et on prend quelque chose d'historique et on dit, mais l'histoire nous a toujours dit ça, mais il y a une autre histoire, une histoire secrète. Il y en a qui vont aller visiter Versailles et vont dire, l'histoire a toujours dit que Louis XIV, l'histoire, mais il y a l'histoire secrète. Et heureusement, Leonardo DiCaprio nous l'a révélé. Est-ce que vous voyez à quoi je fais référence? Le masque de fer. Il avait un frère jumeau, Louis XIV. Et puis, c'était tout un complot avec Richelieu, tout ça. Et heureusement, les mousquetaires et toute l'affaire. Bon, on dit c'est un film, quoi. Mais ce film se base sur certains documents, certaines légendes. C'est vrai qu'il y avait quelque part dans une prison un homme qui avait un masque et qu'on ne savait pas trop qui était derrière ce masque et que c'était très énigmatique. Mais de là à dire qu'il y a eu un complot et que celui qui était derrière le masque, c'était le sosie, le frère jumeau, pardon, de Louis XIV, c'est toute une autre affaire. Vous me saisissez? Mais ça fait un bon film. Et les gens ont aimé ça. Un secret qui vient nous dire le contraire de ce qu'on a toujours cru. Et on a ça régulièrement. Des films avec des chasses au trésor. Indiana Jones. Vous connaissez Indiana Jones? Moi, quand j'étais jeune, c'était Indiana Jones. Et Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue. On va chercher l'Arche, l'Arche de Dieu. Eh, c'est biblique, Indiana Jones. Enfin, bref, ça fait référence à des bouts de la Bible. Indiana Jones qui va retrouver l'Arche. Ah, quelle aventure! Avec énigme, étape, recherche au trésor. Indiana Jones et le Graal. C'est quoi le titre exact? Indiana Jones et la dernière croisade. Il va rechercher le Saint Graal. Et justement, dans le Code da Vinci, il est question du Saint Graal. Mais d'une autre manière. Et voyez ce genre d'histoire où on mêle un petit peu des choses véridiques avec la fiction. Récemment, un film de Walt Disney, ça s'appelait Trésor National. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Trésor National avec Nicolas Cage? Oui. Alors là, c'est toute une aventure aussi. On découvre que derrière, que ceux déjà qui ont signé le traité de l'indépendance, la déclaration d'indépendance des États-Unis, tous ceux qui avaient signé étaient des francs-maçons. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est ce qu'ils annoncent. Et que derrière ce traité, il y avait un message secret, qui n'était pas visible, puisqu'il était secret, invisible. Et il fallait mettre un certain produit, et puis il fallait des lunettes spéciales pour réussir à lire ce message secret qui nous amenait à une autre cachette, et qui finalement nous amenait au trésor des Templiers. Vous avez entendu parler du trésor des Templiers qui aurait trouvé le trésor de Salomon? Et alors, c'est toute une aventure. Bon, puis c'est un film américain, alors ils trouvaient qu'il y avait un peu trop de choses qui se passaient en Europe et en Israël, et puis les croisades. Ils ont réussi à amener les croisades aux États-Unis, ce qui est fort, et puis d'amener le trésor des Templiers en plein New York. Faut le faire. Le trésor des Templiers se retrouve en plein New York. Bon, ben, il fallait bien qu'ils aient un petit peu de mystère aussi, mais on comprend que c'est une histoire, c'est une aventure, et que il y a très peu de chances que les Templiers se soient retrouvés aux États-Unis et qu'il y ait un trésor des Templiers en plein New York. Mais ceux qui regardent le film savent que c'est une histoire. savent que c'est une aventure. Mais le Da Vinci Code, c'est la même chose. C'est un livre avec une chasse au trésor. On part de certaines énigmes et on arrive jusqu'au trésor. Et l'héroïne du film, Sophie Neveu, hein, c'est comme ça qu'elle s'appelle, elle proclame plusieurs fois « Je n'aime pas les secrets ». Et donc c'est le secret qui doit être révélé. Et on va d'étape en étape découvrir le secret. Quel est ce complot? Quelle est cette conspiration? Ce secret si puissant qui peut ébranler les fondements de l'humanité, c'est ce qu'on nous a annoncé. Ce secret, ce mystère dans le musée du Louvre, et le mystère s'apprête à être révélé. Le conservateur, le film commence avec le conservateur du musée du Louvre, Jacques Saulnière, qui est là retrouvé mort dans ce musée avec un étrange mystère et des mots secrets et des codes, et c'est le début de la chasse au trésor. Le code secret qu'il y a, le premier, c'est juste un exemple parce qu'il y a des codes à toutes les pages, hein, et des mystères, mais juste pour vous amener à réfléchir, je ne sais pas si vous aimez les codes secrets, les mystères. Moi, quand j'étais petit, j'avais le livre de l'agent secret avec toutes sortes de codes secrets, comment faire des codes. Non, vous n'avez jamais fait ça? Avec du jus de citron, comment faire un code invisible? Non? Non, comment coder un message avec des tables de code, remplacer des lettres par d'autres lettres. Mais je sais pas vous, mais chez nous, quand il y a un anniversaire à la maison, les filles ont une chasse au trésor quasiment, enfin pas chaque année, mais ça arrive souvent. Et puis il y a des secrets, et puis il y a des mystères, et puis il y a des codes, et puis il faut avancer d'étape en étape jusqu'à trouver le trésor de la fête, de l'anniversaire. Non? Non, vous n'avez jamais fait ça, vous. C'est le fameux code qu'il y a au départ, c'est une série de chiffres. Alors, je ne sais pas s'il y a des matheux qui disent c'est quoi ces chiffres-là. 13, 3, 2, 21, 1, 1, 8, 5. Et puis un message qui nous paraît incompréhensible. Au draconian devil, au lemsant, qui veut dire au diable draconien, au saint boiteux. Ça veut rien dire, mais justement, c'est codé. Il faut remettre les choses dans l'ordre. Alors, ça attire l'attention et on dit « Ah, un message codé !» Et on cherche l'ordre et on se rend compte que si on met les chiffres tout simplement dans l'ordre, on arrive à la séquence de Fibonacci. On va remettre les chiffres dans l'ordre. Et puis, si on change les mots de « O draconian devil, O lemsin », c'est une anagramme, Leonardo da Vinci, The Mona Lisa. Si vous changez juste les lettres de place. Vous ne l'aviez pas vu, ça, hein?
Non.
Moi non plus. Mais tout ça, bon, c'est juste un tour de passe-passe, mais ça entretient le mystère. Ah, il y avait un message secret qui nous amène à Mona Lisa et à Leonardo da Vinci. En français, Léonard de Vinci. Le code da Vinci, c'est le code de Léonard de Vinci. Vous connaissez Léonard de Vinci, celui qui a peint la Joconde, qui était un savant génial en son temps, qui a amené toutes sortes d'inventions, c'est lui qui a inventé le principe de l'hélicoptère, qui a inventé toutes sortes d'affaires, aussi bien que ce soit en biologie, qu'en mécanique et qu'en peinture. Et donc, cette séquence de Fibonacci, bon, il y a toutes choses à dire là-dessus, mais on ne va pas y aller. Mais je vous arrive maintenant directement à la révélation, on va sauter les étapes, comment à partir de ça on arrive d'étape en étape, on arrive pour dire voilà la révélation. La révélation qui va ébranler les fondements de l'humanité. Attention, est-ce qu'on est prêt à ce que les fondements de l'humanité s'ébranlent ce matin? Parce qu'on va révéler le secret caché depuis des siècles. Vous êtes prêts? Tenez les murs au cas où ça s'écroule. Cette révélation, c'est que Jésus était marié avec Marie-Madeleine. Ah, vous ne le saviez pas, ça. Comme quoi, c'était un bon secret. Jésus était marié avec Marie-Madeleine. Voilà ce qu'annonce le fondement même du code da Vinci. Et évidemment, ils vont essayer de le démontrer, de dire par A plus B, voilà comment on peut prouver que Jésus était vraiment marié avec Marie-Madeleine. Ce soir, on prendra le temps de même examiner la scène à la loupe quand je dis la scène, c'est le tableau, la scène de Léonard de Vinci, et comment, au travers de ce tableau, il y a des signes secrets, mystérieux, qui nous montrent qu'il y a un M dans le tableau, et que le M, c'est forcément Marie-Madeleine. Qu'il y a un personnage que longtemps on a cru que c'était Jean, mais en fait, ce n'était pas Jean du tout. C'était Marie-Madeleine qui est là dans le tableau. Vous ne l'aviez pas vu?
Non.
Ben, on le verra ce soir, enfin, du moins, c'est ce qu'ils disent. Et on va aussi démontrer que ça ne tient pas la route, toute cette affaire. La révélation fracassante, c'est donc que Jésus était marié avec Marie-Madeleine. C'est qu'ensemble, ils ont eu une fille qui s'appelait Sarah. Et puis, les Français sont concernés dans cette affaire parce que Sarah, la fille de Jésus et de Marie-Madeleine, est devenue la descendance des rois mérovingiens, des rois de France. Le roi Dagobert, mérovingien, est un descendant de Jésus. Vous connaissez le roi Dagobert? Qui a mis sa culotte à l'envers. Et si vous connaissez l'histoire du roi Dagobert, il a été assassiné par un pape. Comment l'Église catholique a assassiné ce roi? On va dire que c'est normal. C'est parce qu'il voulait cacher ce secret qu'il y avait une descendance du Christ. Troisièmement, l'Église nous a caché la vérité. Et c'est sur ce point-là qu'en fait, il y a tout le danger du code à Vichy. L'Église nous a caché la vérité. Parce que voyez-vous, il y a bien des gens qui sont troublés aujourd'hui avec le code à Vichy en disant, mais voyons voir, pourquoi est-ce qu'on nous a jamais dit que Jésus était marié avec Marie-Madeleine? Pourquoi est-ce qu'on nous a jamais dit qu'ils ont eu une fille? Pourquoi est-ce qu'on nous a caché toutes ces choses? Eh bien, le code da Vinci, l'auteur Dan Brown répond, parce que c'était volontaire. Ces choses ont été cachées pour justement qu'il y ait de la manipulation, parce que sinon l'histoire de Jésus ne tient plus. Parce que dans ce livre-là, on veut ramener Jésus à un simple homme, non plus comme étant le Fils de Dieu. D'ailleurs, ils vont remettre en question le fait que Jésus est Fils de Dieu, en parlant du concile de Nicée. On en parlera dans 3 semaines, hein, quand on parlera de Constantin, et comment, là encore, il y a tout un mensonge. Et donc, on est là dans le complot et dans la suspicion, sachant que naturellement, l'homme, la femme, aiment tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est secret, tout ce qui est complot. On se dit, mais est-ce que ce que l'on voit, c'est vraiment la vérité? Est-ce que ce que l'on voit, c'est vraiment la vérité, ou est-ce qu'on est dans une matrix? Est-ce que ce que l'on... pas saisi là. Non. Est-ce que ce que l'on voit, c'est vraiment vrai, ou est-ce que c'est encore toute une affaire qui est cachée, qui est mystérieuse? Est-ce que ce qu'on nous a annoncé, c'est vrai? Est-ce qu'il n'y aurait pas un secret mystérieux derrière? Et cette théorie du complot, on y court. Est-ce que ça vous est pas arrivé quand quelqu'un vient vous dire quelque chose sur quelqu'un d'autre? C'est quelque chose là de secret, de mystérieux. On a tendance à le croire facilement. Non? Plutôt que d'aller vérifier ses soupçons, vous disiez, hey, vous ne savez pas ce que j'ai appris? Il paraîtrait que la mairesse de Drummondville, puis après vous sortez n'importe quoi, et ah bon? Non? Leonardo da Vinci, nous dit le code da Vinci. Vous savez, il paraît que Leonardo était homosexuel. Ils le disent, hein? C'est pas... Ah bon, on ne le savait pas. Vous savez que quand on vient nous révéler un secret, ça nous semble, c'est croustillant, c'est savoureux, c'est... Non? On aime ça, entendre parler d'un secret. On va vous dire un secret sur le pasteur. Il y a quelque temps, je vais vous donner un exemple comme quoi ça se produit même dans les églises. Il y a une personne dans l'église, une sœur de l'église qui a vu quelqu'un d'autre, une jeune femme de l'église, dans la rue de la ville. Elle dit, bon, c'est normal qu'on se rencontre, mais là, regardez, elle dit, il y a quelque chose de suspect. Elle nous cache quelque chose. Il y a un secret derrière, parce qu'elle remarque que cette jeune femme sort d'un hôtel. Qu'est-ce qu'on peut bien faire dans un hôtel en plein après-midi? Il y a un rendez-vous secret. Elle dit, ah, c'est peut-être une coïncidence. Et cette sœur qui est perspicace se dit, il y a anguille sous roche, il faut que je vérifie ça, vérifie le jour, l'heure. La semaine d'après, elle se retrouve au même endroit, par hasard, et elle se rend compte que cette même femme, jeune femme de l'église, sort de l'hôtel. Hey, c'est comme du papier à musique. Non, elle est sortie une fois de l'hôtel en plein après-midi, une fois de l'hôtel deuxième après-midi, la troisième fois, alors là, si on la rencontre, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Eh oui, la troisième fois, cette jeune femme sort encore de l'hôtel en plein après-midi. C'est clair, c'est évident, cette jeune femme trompe son mari, elle a un amant et il s'était redonné rendez-vous dans cet hôtel. C'est évident, non? Bah, pour elle, c'était évident quand même. Qu'est-ce qu'une jeune femme peut faire dans un hôtel en plein après-midi? Vous voyez? Et là, il y a eu la suspicion, le complot, enfin, disant, il y a quelque chose de pas net, puis ça fait toute une affaire dans l'église, parce qu'évidemment, après, hey, tu sais pas quoi? J'ai vu cette jeune femme sortir de l'hôtel, et pas une fois, et pas deux fois, trois fois, toujours à la même heure, en plein après-midi. Ouh. Vous voyez, ça prend des proportions, jusqu'à ce que ça arrive à prendre tellement de proportions qu'on cherche la vérité. Puis quand on découvre la vérité, on se rend compte que l'après-midi, dans cet hôtel, il y avait des réunions Weight Watchers. Vous me suivez? Mais là, avec le code Da Vinci, c'est la même chose. On part juste sur des pistes qui ne sont pas prouvées, qui ne sont pas fiables, des suppositions, des énigmes. Il paraîtrait que Jésus a eu une relation avec Marie-Madeleine. On n'a aucune preuve matérielle, aucune preuve scientifique. Certains vont dire, oui, mais c'est parce qu'on a caché ces preuves. On en parlera dimanche soir prochain, donc pas ce soir, mais dimanche soir prochain, on parlera de ces fameux évangiles gnostiques. On dit qu'il y a 80 évangiles, pourquoi on en a retenu 4? Qu'est-ce qu'on a fait de l'évangile de Philippe? Qu'est-ce qu'on a fait de l'évangile de Thomas? Qu'est-ce qu'on a fait de l'évangile de Marie-Madeleine? L'évangile de Marie-Madeleine, on l'a caché. Comprenez que, quand on dit qu'il y avait un évangile de Marie-Madeleine, ben oui, on a découvert en 1945, en Égypte, dans Hag Hammadi, des documents coptes, où il y a un document qui s'appelle l'évangile de Marie-Madeleine. Et on apprend dans cet évangile de Marie-Madeleine que l'apôtre Pierre n'aimait pas beaucoup Marie-Madeleine, parce que Marie-Madeleine, pour certains, c'est elle la chef de l'Église. C'est pas Pierre. Vous ne saviez pas?
Non.
Comprenez qu'on lance une information comme ça, mais il n'y a pas de fondement. Et on parlera dans la semaine prochaine de tous ces évangiles cachés et de comment notre Bible est constituée. Et on répondra à cette question. Est-ce que notre Bible est fiable? Et ces évangiles, est-ce qu'ils peuvent venir contredire le message de la Bible? Et on rentrera en détail là-dedans. Comprenez que le problème du code Da Vinci, c'est qu'il part de petites affaires comme ça. Mais si encore c'était du roman, si encore c'était qu'une aventure, on dirait bon. Mais dès la première page du livre, il est écrit « La société du prieuré de Sion a été fondée en 1909 après la première croisade. » 1909? Est-ce que c'est moi qui ai fait une faute de frappe? En 1099, excusez-moi, j'ai fait une faute de frappe, je vérifie. A été fondée, vous pouvez corriger sur votre papier, a été fondée en 1099. Après la première croisade par les premiers croisés. Donc, après cette première croisade, on a découvert en 1975 à la Bibliothèque nationale des parchemins connus sous le nom de dossiers secrets où figurent les noms de certains membres du prieuré, parmi lesquels on trouve Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo et Leonardo da Vinci. Et dès la première page du livre, on nous dit ça, c'est un fait. C'est la vérité. Il y a une société secrète. Société secrète, ce n'est pas nouveau. Il y avait les francs-maçons. Vous avez entendu parler des francs-maçons, des rosicruciens, une autre société secrète. Il y a toutes sortes de sociétés secrètes comme ça. la scientologie, quelque part aujourd'hui, est comme une société secrète. Et il dit que cette société secrète a été créée en 1099 et que dans cette société secrète, on trouvera dans l'histoire Isaac Newton. Vous avez entendu parler de Newton, qui a reçu une pomme sur la tête et qui s'est crié Eureka. J'ai trouvé, et puis qui trouve toute la théorie de la gravité, Botticelli, Victor Hugo, Leonardo da Vinci. Et ils disent, il y a des documents qui ont été trouvés dans la Bibliothèque nationale en France, en 1975, qui prouvent toutes ces choses. La seule chose qu'ils oublient de dire, c'est que le dénommé Plantard de Haute-Savoie, qui a créé le prieuré de Sion en 1900 et quelques, c'est pas 1099, c'est 1900, là c'est sûr. En 1980, il a créé une association, le 1901, prieuré de Sion, et qu'il a été mis en prison pour faux documents, qu'il a fait des faux documents et qu'il a inséré à la Bibliothèque nationale, et ces documents sont faux, et c'est prouvé, il y a eu un procès, il y a eu des toutes sortes de scientifiques qui ont étudié ces documents-là, et donc déjà, tout le livre est basé au départ sur une théorie du prieuré de Sion, qui est fausse. Est-ce que vous me suivez? On pourra le prouver d'une manière plus précise si vous le voulez. Et il est dit aussi à la première page, toutes les descriptions de monuments, d'œuvres d'art, de documents, rituels secrets évoqués sont avérées. En d'autres termes, ils nous disent tout ce qui est écrit dans ce livre. Quand on parle d'un tableau, quand on parle du musée, c'est vrai, quand ils parlent du musée du Louvre, le musée du Louvre existe bien. On est d'accord avec ça. Quand il nous parle de la Joconde, c'est vrai que la Joconde existe bien. Quel crédit on peut porter à de telles révélations? C'est vrai qu'il y a certaines choses qui existent, et c'est ça qui est mêlant. Parce qu'il parle de choses qui existent, de choses qui sont réelles, et à l'intérieur, on mélange des petites erreurs. Ce soir, on verra un reportage d'un professeur en architecture et en histoire qui nous dira certains détails. Évidemment, il y a tellement d'erreurs. Il semblerait que quelqu'un ait pu déceler plus de 600 erreurs dans le Code da Vinci. Mais il y a quelques erreurs qu'on peut souligner. Par exemple, la pyramide du Louvre. On va demander aux dames qui vont à Paris la semaine prochaine et ils vont devant la pyramide du Louvre de compter le nombre de losanges qu'il y a dans cette pyramide du Louvre. Parce que dans le livre da Vinci, on nous dit, il paraît que François Mitterrand, l'ancien président de la République de France, il paraît que François Mitterrand a dit et a demandé à ce que dans cette pyramide, il y ait 666 losanges. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah, ça ne m'étonne pas de François Mitterrand. Un homme qui a sa voyante à l'Élysée, qui fait des trucs très ésotériques, occultes, on dit, ah, ça ne m'étonne pas de lui. Et puis, vous savez, on lit ça, on dit, ben, pourquoi il nous dirait quelque chose de faux, là? Il nous dit que tout s'est avéré. Puis, en fait, quand on va lire un petit peu plus loin, on s'aperçoit que c'est faux, qu'il n'y a pas 666 losanges dans la pyramide du Louvre, mais qu'il y en a 698. Ben, vous compterez, hein, s'il y en a 666 ou s'il y en a plus. Et même si on considère d'autres motifs, il pourrait y en avoir 789, et certains disent ça fait référence à la Révolution française. C'est notre affaire. On nous parle, et on le verra dans la vidéo de ce soir, de la ligne du gnomon de la chapelle Saint-Sulpice, où c'est une horloge astronomique. On disait ça s'appelait la ligne rose, c'est pas vrai, ça s'est jamais appelé la ligne rose. Que les lettres P et S qui sont dans cette chapelle, ça veut dire prieuré de Sion. En fait, c'est juste les deux saints qui ont été sur laquelle s'est construite cette église, c'est-à-dire Saint-Pierre et Saint-Sulpice. Ça n'a rien à voir avec prieuré de Sion, mais c'est sûr que ça coïncide. On nous dit que le méridien 2 de Paris, il y a le méridien de Greenwich, c'est le 1, il y a le méridien de Paris, il nous dit que ça passe exactement à la pyramide inversée dans le Louvre. En fait, c'est faux. Le méridien ne passe pas là. Mais il passe à côté, oui, mais il ne passe pas à cet endroit précis. Mais bon, on nous dit ça. On nous dit que la Roslin Chapel, donc en Angleterre, a été fondée à Londres, a été fondée par les Templiers en 1446. En fait, en 1446, les Templiers n'existent plus. Ils ont été éteints, ils se sont éteints en 1314. Et après, il y a toutes sortes de théories farfelues. On nous parle du nom Jéhovah, en disant Jéhovah, c'est le nom de Dieu, Yah, comme dans Alléluia. Vous savez, il y a le nom abrégé de Dieu, Yah, et puis de Abba, qui est le nom primitif de Ève. Donc en fait, c'est la relation du masculin et du féminin, du Yah et du Hava, et ça fait Jéhovah. Mais en fait, il suffit de faire un petit peu d'hébreu pour savoir que Jéhovah, de toute façon, ça ne colle pas et que ça ne marche pas comme ça, quoi. On nous dit que dans le temple, il y avait Dieu, donc Yahvé, mais il y avait aussi son épouse, la Shekinah. C'est-à-dire, la présence de Dieu féminine, c'était la Shekinah. Et c'est toujours ce rapport entre l'homme et la femme, et de dire, il y a l'homme et la femme. On nous parle de Mona Lisa. En disant Mona Lisa, ça fait référence au dieu de la fertilité masculine, le dieu de la virilité qui est Amon. Amon, vous voyez, Mona, Amon, c'est une anagramme. D'accord? Et puis, la déesse de la féminité, Isis. La déesse de la féminité, Isis, dans l'antiquité égyptienne. Et puis cette déesse de la féminité, elle s'appelait aussi Lisa. Donc, Mona Lisa, c'est le dieu de la virilité masculine et le dieu et la déesse féminine, du féminin sacré, comme ils appellent. Et ce féminin sacré, évidemment, c'est Marie-Madeleine. Vous me suivez? Bon, alors tout ça, c'est énormément tiré par les cheveux. Et même... Quand j'ai lu ce chapitre où il nous parle de Disney, en disant que même dans les dessins animés de Disney, il y avait référence à Marie-Madeleine. Quand dans Blanche-Neige, elle mange une pomme, c'est le divin sacré qui fait référence à Ève qui a mangé la pomme. Vous voyez? Parce qu'elle mange la pomme que la sorcière lui a donnée. Mais ça, c'est la Marie-Madeleine, le divin sacré qui est caché, enfoui. Mais déjà, Disney essayait de révéler le secret le plus gardé de l'histoire, il y avait une femme aux côtés de Jésus. Vous voyez, cette histoire, c'est très, très, très tiré par les cheveux. Bon, puis il y a aussi le mystère de Rennes le Château, mais on en parlera la prochaine fois. Cet après-midi, ce soir, on parlera de Marie-Madeleine, du tableau de la Seine, mais revenons maintenant plus à ce que dit la Bible. Oui, la Bible nous parle d'une certaine Marie-Madeleine. Certains vont dire, mais l'Église catholique nous présente Marie-Madeleine comme étant une femme pécheresse, comme étant une prostituée. En fait, la Bible ne présente pas Marie-Madeleine comme étant une prostituée, c'est parce qu'il y a une confusion, un amalgame entre trois Maries différents. Marie avec un E, il y a trois femmes qui s'appellent Marie. Et on a confondu la Marie-Madeleine avec la femme pécheresse de Luc 7. Et apparemment, celui qui a fait l'erreur, en plus c'est un pape, c'est le pape Grégoire Ier qui a mélangé les deux Maries et qui a affirmé, donc au 6e siècle, que Marie-Madeleine était la pécheresse de Luc chapitre 7. Et ce n'est qu'en 1969, vous voyez, donc le pape fait l'erreur au 6e siècle, et l'Église corrige l'erreur en 1969. En 1969, l'Église catholique publie un discret démenti pour dire non, il y a peut-être une erreur, une confusion là-dessus. En ce qui nous concerne, ce n'est pas la tradition de l'Église qui nous importe, c'est ce que dit la Bible. Et quand on lit la Bible, on s'aperçoit que le Jésus de l'Évangile n'a rien à voir avec le Jésus du Code da Vinci. Dans le Code da Vinci, en fait, la force et le pouvoir du Code da Vinci, il n'y a rien à craindre quand on est un chrétien, quand on croit en Dieu et quand on connaît Jésus. Parce que quand on lit ça, j'allais dire, je ne sais pas si c'est une expression québécoise, c'est du pipi de chat. Je veux dire par là que je m'attendais à voir un colosse là, en disant il va y avoir un vrai combat. En fait, il n'y a même pas de combat du tout, parce qu'il n'y a rien de solide derrière tout ça. Et je comprends la réaction des journalistes qui disent tout ça pour ça. Il n'y a pas grand-chose derrière. Mais maintenant, celui qui ne connaît pas Jésus, celui qui ne connaît pas l'Évangile, celui qui ne sait pas, et même celui qui, depuis la Révolution tranquille au Québec, celui qui se méfie de l'Église catholique, en disant « nous, on ne veut plus rien avoir à faire avec l'Église catholique », quand il entend une histoire... qui émane du Code da Vinci, il va dire, c'est donc ça. L'Église nous a menti. L'Église nous a trahis. Et quelque part, ça leur donne un prétexte pour dire, je ne veux plus rien avoir à faire avec l'Église parce que l'Église nous a menti. Mais il n'est pas question d'avoir à faire avec l'Église catholique. C'est vrai que l'Église, dans le cours des siècles, et quand on fait référence au Moyen-Âge, il y a eu des temps obscurs, des temps d'atrocité, de guerre de religion, des choses qui ne sont pas dignes de l'Évangile et qui ont été accompli par l'Église catholique. Il est question de l'Opus Dei là-dedans. C'est vrai aussi que l'Opus Dei, bon, ça existe aujourd'hui encore, et il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas claires avec cette organisation secrète. Mais maintenant, nous, ce qui compte aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas l'Église romaine, c'est Jésus. C'est ce que dit Jésus. C'est le message de l'Évangile. D'ailleurs, à la page 432, je vais vous lire juste une phrase. Il est dit, l'Église romaine est en effet armée d'une foi très puissante qui la rend capable de résister à bien des tempêtes, y compris la diffusion de documents contradictoires avec le dogme qu'elle professe. Donc le spécialiste dit là, l'Église n'a rien à craindre avec la révélation du Code de Vinci. Par contre, mais pensez au commun des mortels, aux milliers de croyants plus ou moins convaincus, qui se demandent ce que Dieu est devenu dans un monde qui leur fait peur, ceux qui assistent aux scandales qui touchent leur clergé et se demandent quels sont ces hommes qui prétendent détenir et diffuser la vérité sur Jésus tout en proférant des mensonges pour masquer les crimes pédophiles dont sont coupables leurs propres prêtres. Et en fait, il parle du malaise qu'il y a avec l'Église romaine en disant « les gens ont un malaise avec l'Église catholique et se rendent pas... » On n'est pas en accord, on n'est pas en harmonie avec ce qui se passe dans ce genre d'église. Mais ce malaise, on le retrouve aussi dans certaines églises protestantes réformées. Mais en disant tous ces gens qui ont un malaise avec l'église, bah, quelque part, ça leur donne raison en disant de toute façon, le message de l'église est faux dès le départ. Parce que Jésus n'est pas celui qui prétend être. Et donc, on part d'hypothèses, de suppositions, mais ça devient un grand prétexte. Et si vous regardez autour de vous ceux qui sont le plus convaincus par le Code d'Avicii, ceux qui sont le plus mordus, ceux qui sont le plus réactionnaires par rapport à ce livre-là, c'est ceux qui ont besoin d'une bonne raison pour dire « je ne veux pas de Dieu dans ma vie ». Pour ceux qui ont besoin d'une bonne raison pour dire « je ne veux rien avoir à faire avec l'Église ». Mais le Jésus que l'on professe, le Jésus dont il est question ce matin, le Jésus dont on veut parler dans cette Église, et on va laisser ça de côté, pour revenir à la Bible, le Jésus dont il est question dans cette Église, c'est un Jésus vivant. Parce que dans le Code d'Avicii, on parle tellement de Marie-Madeleine qu'on oublie Jésus. Et même comme on le verra cet après-midi, Jésus est mort. Et on ne croit même plus dans sa résurrection. Mais nous, nous professons un Jésus ressuscité. Regardez ce qu'il est dit dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 16. 2 Pierre, l'Évangile de Pierre, chapitre 1er, verset 16. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Laissez-moi vous dire que depuis des siècles, on s'attaque à Jésus et que ce n'est pas nouveau. Que déjà dans la première Église, au premier siècle, au deuxième siècle, on parlait des gnostiques. Mais déjà le gnosticisme... essayait de détruire le message de l'Évangile. Il y avait déjà des attaques de philosophes qui voulaient détruire le fait que Jésus était Dieu. Mais c'est pas nouveau dans cette affaire-là. Mais l'apôtre Pierre dit, nous, c'est pas avec des fables habilement conçues. C'est vrai qu'il y a certaines légendes, certaines fables, certains livres qui sont habilement conçus. Mais comment faire la différence entre le vrai et le faux ? Eh bien, je reprends cette expression du prophète Élie en disant « le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui le vrai ». C'est pas « que va apporter la Marie-Madeleine du Code da Vinci dans la vie de tous les jours aujourd'hui ?» Rien. C'est qu'une histoire, c'est qu'un mythe, c'est qu'une légende. Ça ne changera pas la vie de celui qui est malheureux, de celui qui est dans la détresse, de celui qui a de l'espoir, celui qui n'a pas d'espoir. Ça ne changera rien pour sa vie. Mais le Jésus de l'Évangile est celui qui transforme les vies, mais celui qui bouleverse, c'est celui qui agit miraculeusement. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et le seul moyen pour contrecarrer un tel livre comme le Code da Vinci, c'est pas de rentrer dans les détails et de dire, voyons voir, on va répondre par la sagesse avec la sagesse. On va répondre à cette sagesse avec la puissance de Dieu. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 1er. Vous avez ce verset dans le bulletin. Frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Regardez au verset 4. Car ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et vous pouvez le noter dans votre bulletin. Une démonstration d'esprit et de puissance. Et voyez-vous, la démonstration qu'il y a à faire aujourd'hui par rapport au Code Da Vinci, et si vous avez des voisins, des amis autour de vous qui ont besoin d'une démonstration, ce n'est pas d'une démonstration scientifique dont ils ont besoin. C'est d'une démonstration d'esprit et de puissance. C'est de dire, mais qu'est-ce que ça change pour toi dans ta vie? Rien. Le Jésus de l'Évangile, il change tout. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile, c'est puissant. Et comprenez qu'aujourd'hui encore, il y a bien des hommes, des femmes qui ne croient plus dans le message de l'Évangile. Même des gens qui fréquentent l'Église, même des théologiens, même des gens à l'université. Je suis en train de finir ma maîtrise en théologie à l'Université de Montréal. Et laissez-moi vous dire que même à l'université, il y a des gens qui ne croient pas dans le miraculeux, qui ne croient même pas que Jésus était crucifié, et d'autres qui ne vont même pas croire que Jésus est ressuscité. Pour eux, tout ça, c'est des histoires. Et ils vont facilement croire à une histoire comme Marie-Madeleine, parce que c'est une belle alternative, et quelque part, ça fait un pied de nez à l'Église catholique. Mais comprenez quelle est la motivation derrière tout ça. Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Mais ceux qui ont connu Jésus, ceux qui ont connu la puissance de Dieu en Jésus, ceux qui ont été sauvés, délivrés, affranchis, ils savent que ce que dit la Bible, c'est vrai. Et que le message de Da Vinci ou de tout autre message, regardez, il y a quelques années, ça fait quoi? Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans que le cinéaste Scorsese, je ne sais pas comment vous l'appelez, avait sorti La dernière tentation du Christ. Vous vous souvenez de ce film qui est sorti il y a quelques années? Déjà dans ce film, on parlait de relations entre Jésus et Marie-Madeleine. Ce n'est pas une histoire nouvelle. C'est les mythes, c'est les femmes. Mais aujourd'hui, ce qui fait l'impact de ce livre, c'est les gens qui sont crédules et qui ne savent pas. Et qui, quelque part, cherchent à dire, à se donner une bonne raison pour ne pas s'approcher de Dieu. C'est sûr que quand on regarde l'Église, on peut se donner toutes sortes de bonnes raisons pour ne pas aller à l'Église. Mais il ne s'agit pas d'Église. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de s'approcher de la vérité. Et le paradoxe, et je finis avec ça, le paradoxe en fait de la bande-annonce qui concluait en disant « Cherchez la vérité ». Laissez-moi vous dire que la vérité, elle a un nom. Ce n'est pas Mona Lisa, ce n'est pas Leonardo da Vinci. La vérité, elle a un nom, c'est Jésus. Jésus est le chemin. La vérité est la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et comprenez que s'il faut chercher la vérité, ce n'est pas le mensonge que l'Église catholique ou que toutes sortes d'Églises ont pu amener durant les siècles passés. La vérité aujourd'hui, c'est qu'il y a un Dieu qui nous aime tellement qu'il a donné son Fils Jésus, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vérité, c'est que oui, en Jésus, il y a une vie nouvelle, une nouvelle naissance, que le drogué peut être libéré, que celui qui est pris de toutes sortes de problèmes peut être affranchi, que l'esclave est libéré, qu'en Jésus il y a la paix, que le désespéré trouve de l'espoir, que le suicidaire retrouve de la joie de vivre. Comprenez que ça c'est Jésus qui le donne. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un système religieux. Et il y en a beaucoup dans ce lieu qui peuvent dire, c'est vrai, je connais ce Jésus-là. Et quand on connaît ce Jésus-là, un livre comme ça, ça ne nous fait pas peur. Et c'est que de la calomnie, c'est que du blasphème. Et en plus, scientifiquement parlant, il n'y a pas beaucoup de preuves solides là derrière. Mais comprenez que, quand bien même il y aurait des preuves scientifiques, je sais en qui j'ai cru, dit l'apôtre Paul. Je crois en Jésus, Fils de Dieu, qui est venu sauver l'humanité, qui est mon sauveur. Et voyez-vous, l'apôtre Paul dit, quand je suis venu vous parler, Corinthiens, je ne suis pas venu vous parler avec un discours de sage, d'intellectuel, de grand raisonnement, mais je suis venu avec un message de force et de puissance. Un message qui fait une différence dans votre vie. Ce message, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La nouvelle de Marie-Madeleine ne va rien changer dans la vie de tous ceux qui vont lire ce livre. Au contraire, ça va les éloigner de Jésus. Ce qui va changer la société dans laquelle on est, c'est le message de l'Évangile. Et dans votre vie ce matin, ce dont vous avez besoin, et si certains ne connaissent pas Jésus, laissez-moi vous dire, cherchez la vérité. La vérité s'appelle Jésus. Lisez la Bible. Et vous verrez en lisant la Bible, eh bien, que Jésus est celui qui libère, qui l'affranchit. Qu'il n'y a aucune autorité, aucun pouvoir démoniaque qui ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Je fais référence à Romains chapitre 8. Est-ce que tout le monde ce matin est convaincu que la vérité a un nom? Elle s'appelle Jésus. Mais comprenez que cette vérité, elle dérange. Et que le diable, lui, veut détourner les gens de la vérité. Pour détourner les gens de la vérité, il y a toutes sortes de façons de faire. Le diable va s'y prendre de toutes sortes de manières. Mais en l'occurrence, un livre vendu à plus de 43 millions d'exemplaires arrive à détourner les gens de la vérité. Et j'entendais une petite mamie dans une émission de radio qui disait « J'ai 73 ans, je suis catholique, j'ai toujours cru en Dieu. J'ai lu le Code da Vinci, j'ai lu le deuxième livre dont Démons et Dragons, Ange et Démons. Le deuxième livre, Ange et Démons. » Elle dit « Mais maintenant, je ne sais plus. » Elle a 73 ans, elle dit « J'ai toujours cru en Dieu. » Je suis allé à la mer, j'ai toujours cru en Dieu. Puis maintenant que j'ai lu ce livre, je ne sais même plus si c'est vrai. Je ne crois plus, je ne sais plus ce qu'il faut croire. Vous voyez, c'est un livre qui amène du doute, qui amène de la suspicion. Une pauvre petite mamie qui croyait, mais qui finalement ne sait plus trop en qui elle croit. Pourquoi? Parce que peut-être sa foi n'était pas bien solide, premièrement. Et puis parce que le but de ce livre, comme le but de notre adversaire, est de détourner les gens de la foi et de les détourner de Jésus. Le diable, dans le jardin d'Éden, est venu avec une seule phrase. Dieu a-t-il réellement dit? Et là, dans le cas da Vinci, on a cette même phrase qui revient souvent. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a dit ça? Est-ce que les évangiles sont sûrs? Est-ce que le Jésus que l'on connaît aujourd'hui, c'est le vrai? Est-ce que, vous comprenez? Et celui qui connaît Jésus n'est pas troublé par ces choses, mais celui qui ne le connaît pas,
l'est.
La meilleure réponse à lui donner, c'est lui dire, viens vers Jésus, approche-toi de lui et tu verras par toi-même. Quand Nathanaël était sceptique en disant, mais qui est ce Jésus? Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Eh bien voilà que Philippe, l'apôtre, répond à Nathanaël, viens et vois. Et la meilleure chose que l'on peut dire à quelqu'un qui est troublé par le livre du Code da Vinci, c'est lui dire, viens vers Jésus et vois par toi-même. Viens, je t'amène vers Jésus. Je t'amène plus près de lui. Je vais te présenter Jésus. Et plutôt que de parler de toute autre chose, parler de Jésus et amener les gens vers Jésus. Et ils verront par eux-mêmes qui est Jésus. Qu'il est un sauveur merveilleux, extraordinaire. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite ce matin à faire un pas vers lui. À vous approcher de lui, à chercher la vérité. Et soyez honnête dans votre démarche. Et Jésus se révélera à votre cœur. Et votre vie s'en trouvera changée à jamais. On va prier quelques instants. Te bénissons, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Te bénissons parce que nous te connaissons et nous pouvons dire avec assurance, à quel autre irions-nous qu'à toi, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de vie. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, nous avons cette chance, cette joie, ce privilège de te connaître et d'avoir une foi ferme, inébranlable dans ta parole, parce que c'est toi-même qui nous a parlé, qui t'est révélé à nos cœurs. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont perplexes, ceux qui sont troublés, ceux qui utilisent ce livre comme un argument pour rejeter le message de l'Évangile. Seigneur, tu vois tous ceux qui ont été déçus par l'Église aussi institutionnelle. Tu vois tous ceux qui regardent l'histoire et qui disent « mais ça ne marche pas ». Seigneur, qu'ils puissent s'approcher de toi au lieu de s'approcher d'une église. Qu'ils puissent te connaître et nous voulons pouvoir les aider et les amener à toi. Tu vois, si dans ce lieu il y a quelqu'un qui te connaît mal, nous voulons lui dire viens et vois Jésus toi-même. Tu es là dans ce lieu, je prie pour que ton esprit puisse travailler les cœurs, toucher les cœurs ce matin. Quelqu'un puisse dire c'est vrai, Jésus est là. Je veux m'approcher de lui, je veux le connaître et avoir une assurance. Qui ne vient pas de ce que les autres vont dire, qui ne vient pas de ce qu'on pourra me raconter, mais qui viendra de ce que Dieu lui-même met dans mon cœur, au travers de sa parole. Que ton nom soit glorifié, notre Dieu.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.